C'est toujours les reines du crime dans Remue Ménage, Radio Zone de Femmes 93.8.
Ben, on en arrive aux écrivaines plus récentes, à celles qui se déclarent féministes. La plupart sont américaines d'ailleurs. En tout cas, celles qui sont traduites en français, parce que je suis sûre qu'il y a des allemandes et des hollandaises, mais celles-là, elles ne sont pas traduites. Malheureusement, je n'ai pas pu les lire. Alors, en parlant entre autres de Diana Ramsey, qui a écrit « Est-ce un meurtre ?», publié aux éditions Rivage Noir. Alors, elle est féministe, elle renouvelle vraiment le genre du mystère, de l'angoisse, les affres d'une jeune femme docteur, d'une jeune doctoresse, face au manœuvre invisible des plus forts. La victime apparaît comme responsable de sa chute, la paranoïa comme seule arme du crime. Heureusement d'ailleurs, elle a une bonne copine. Autre écrivaine féministe, plus réjouissante, elle, Lucille Callen, entre autres dans « Quand la souris n'est pas là », publié donc aux éditions du Masque, une aventure de Maggie Rome, la journaliste d'une petite ville pour qui se trouve face au problème des bonnes, car il n'est pas du tout facile de trouver une aide domestique depuis que les femmes noires ont déclaré forfait ou trouvé de la main d'œuvre taillable et corvéable parmi les sud-américaines, bien sûr. C'est l'unique solution, hélas. Lorsque la maîtresse de maison file vers son bureau de verre de Manhattan, le foyer est livré à la fantaisie d'une esclave non consentante, censée battre les tapis, briquer l'argenterie, mais qui fait parfois tout autre chose. Alors dans ce roman, on tue pour empêcher un projet terrible, un projet ultra conservatrice du comité pour une maternité responsable. Je vous lis un extrait. Fred Bryce a derrière lui des années passées à œuvrer pour le bien de Sloane Ford. C'est un serreur de main, flatteur, un père de famille honnête. Il est programmé pour le pouvoir. Dès qu'il aura réuni les fonds nécessaires, il se ruera sur les municipales, puis sur le Congrès, le Sénat. Et si personne ne l'arrête, il emportera sa mentalité de conservateur, de comité pour une maternité responsable à Washington. Et ça l'avancera à quoi, d'après vous ? Monsieur Greenfield, je verse des pleurs sous votre naïveté. Au moment où nous parlons, un projet de loi est présenté devant le Congrès qui vise à protéger l'institution sacrée de la famille. Les hommes sont faits pour aller chasser, les femmes pour rester bouclées dans la cave. Voilà ce que le Congrès examine, monsieur Greenfield. Ben, c'est son rôle. C'est pourquoi nous devons être vigilants sur l'identité des votants. Vigilants ! Dit Greenfield en observant Jessie. J'ai déjà rencontré une diva timide, un chèque désargenté, voilà maintenant une militante féministe vigilante. Eh oui, nous sommes trois bonnes femmes cinglées, déclara-t-elle. Enfin, c'est ça le tableau. Pourquoi diable râle-t-elle ces femmes ? Très bien, nous voici. Naomi, Roberta et moi, nous appartenons à une espèce menacée. Venue au monde dans les années 30, nous avons têté les principes sacrés du mariage en même temps que notre lait. Et y avons cru, sans poser des questions. À l'époque, une célibataire, c'était une paria. Voilà donc Naomi qui épouse son raseur, qui s'aperçoit au fil des années que la tenue d'un intérieur n'est pas ce pourquoi elle était faite. Elle est intelligente, cultivée, sociable. Elle se fait à grande peine une place dans le monde. Puis survient Bryce qui décrète qu'un homme qui ne réussit pas dans la comptabilité a le droit de devenir photographe, mais qu'une femme qui ne réussit pas dans les tâches domestiques doit quand même demeurer devant ses fourneaux. Et puis il y a Roberta Moss qui est restée à la traîne. Elle a décroché un premier prix en épousant un endocrinologue. Et depuis, elle n'existe que pour applaudir les autres. Elle compense en pratiquant le yoga ou le végétarisme. Et puis il y a moi qui ai tout arrêté comme ça. Pour m'occuper des filles. À l'époque, la maison débordait de rires et de larmes. Ah. une autre américaine féministe, Sarah Paretsky. Sarah Paretsky, qui a... Alors là, on a vraiment clairement que des détectives femmes. Son héroïne, c'est donc la détective Vi Varshavsky, hein, un nom bien américain, comme vous le voyez. Alors elle, c'est un peu une caricature des détectives masculins. Elle boit trop, elle mange jamais, elle dort jamais, elle baise elle aussi les témoins, elle fonce dans le tas et elle continue, même si elle est blessée, à moitié morte, la tête bandée, les jambes dans le plâtre, les bras cassés, elle continue à cogner et elle gagne toujours.
Donc c'est un petit peu... Elle s'est contentée un petit peu d'inverser les rôles, quoi.
Elle s'est contentée d'inverser les rôles. On espère qu'elle l'a fait avec humour, c'est-à-dire que justement, ça met en évidence cette caricature. Mais je ne suis pas sûre qu'elle l'ait fait pour ça. Mais disons, c'est délassant. Ça, par contre, ça fait bien dormir. Une autre que j'aime bien, c'est Linda Barnes, La chasse au bahut. La chasse au bahut, publiée dans la série noire chez Gallimard. Alors, on a aussi un personnage d'une femme flic, ou plutôt ex-flic, privée. Donc là, on a vraiment les privés. Ce fameux détective américain, ce fameux personnage presque mythique de la littérature américaine, mis au féminin. Elle a beaucoup de problèmes, elle, Carlotta Carlyle. Premièrement, parce qu'elle est très, très grande. Une flic géante. Entre autres, elle ne trouve jamais de lit à sa taille. Elle doit toujours porter des godasses immenses. Elle a beaucoup de problèmes. Elle a aussi beaucoup de problèmes avec les hommes. Et ça, c'est aussi une des constantes de ces personnages. Ils sont seuls. Elles sont seules. Elles sont seules parce qu'il n'y a aucun homme, finalement, avec qui elles arrivent à vivre. Elles ont toutes divorcé ou elles ont été quittées ou elles ont quitté leur mec. Elles aimeraient bien construire une relation et elles n'arrivent pas. Et souvent, dans ces romans, il y a à la fois l'enquête et la recherche, finalement, d'une relation. Carlotta a aussi des problèmes avec son chat. Alors là, il y a une histoire très rigolote. C'est parce que Carlotta vit donc seule, justement. Et comme vous savez peut-être qu'aux États-Unis, à New York en particulier, quand une femme vit seule, elle est en butte à tous les satires et autres personnages qui lui téléphonent, qui viennent la voir, etc. S'ils voient son nom dans le bottin. Donc, elle a mis le nom de son chat, qui s'appelle Thomas, avec Carlyle, son nom, elle, sur la boîte à lettres et dans le bottin. Ce qui fait que son chat reçoit beaucoup de courriers et un jour son chat reçoit un avis comme quoi il a gagné 20 000 $ et elle aimerait beaucoup récupérer ces 20 000 $ et il y a cette histoire là très très drôle. En même temps elle poursuit, elle enquête auprès des vieux taxistes new-yorkais d'origine irlandaise et d'une somme d'argent qui servirait peut-être à financer l'IRA. Alors voilà comment elle se présente, Linda Barnes. Alors Carlotta Carlyle elle reçoit une visite, elle ouvre la porte et voilà Margaret Devens. Si Margaret Devens m'avait dit la vérité d'entrée de jeu, les choses auraient pu tourner différemment. Comme le disait maman en yiddish ou en anglais selon les circonstances, si ta grand-mère avait des roues, elle serait un camion. Je n'ai jamais connu ma boubée, ma grand-mère, source de tous les proverbes yiddish de ma mère. En y réfléchissant maintenant, je crois que je n'aurais pas été fâchée qu'elle ressemblait à Margaret Devens, entêtée, intelligente et adroite derrière la façade d'une charmante vieille dame. Alors, j'aimerais maintenant vous parler de Dorothy Unnack. Dorothy Unnack, qui est une ex-femme flic et qui a écrit plusieurs romans, dont Victime, qui est un livre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors, c'est typiquement une atmosphère new-yorkaise, dans la mesure où elle est violente, où il y a cette violence sous-jacente et cette impression que jamais on s'en sortira. Même si, finalement, l'histoire ne finit pas mal ou finit plus ou moins bien, il y a un fond de défaitisme dans une ville comme New York. Alors dans ce livre Victime, il y a un crime un jour dans la rue, mais l'enquête va se focaliser moins sur l'assassin que sur les témoins. Monsieur et Madame Tout-le-Monde, qui dans un quartier blanc et chic, regardent sans intervenir à sa fenêtre une femme qui se fait poignarder, qui crie, qui saigne et qui meurt. Voilà comment elle est décrite. Mike Stein n'eut aucun mal à se mêler à l'attroupement. Tous ses voisins n'étaient rien de plus les uns pour les autres, des silhouettes et des visages vaguement familiers des gens qu'on côtoie sans les connaître. Ils se demandaient, ils discutaient entre eux. « La victime, c'est qui ? Son visage me dit quelque chose. Mais je pensais que c'était cette fille qui, vous savez. Ah, moi aussi, c'est ce que je pensais. Mais maintenant ? Oui, quand elle s'est mise à hurler. Ah oui, vous l'avez entendu, vous aussi ?» La question s'adressait à Mike. Il haussa les épaules et eut un geste vague pour indiquer qu'il habitait à l'autre bout du pâté de maison. « Mais même en face, ils ont entendu, » dit un homme. Les lèvres pincées, sa femme hocha la tête comme il poursuivait. « Au début, on a cru que c'était un chien, percuté par une voiture. » Oui, c'est à ça que ça ressemblait au début. Ils semblaient tous d'accord là-dessus. Un hurlement aigu, déchirant, d'animal blessé. Un hurlement qui s'était répété plusieurs fois, semblait-il. Qui s'était répercuté d'un bout à l'autre du goulet formé par les immeubles. Information fournie et confirmée par les habitants du trottoir de gauche, puis de droite. « Oui, on a baissé le volume de la télé. On a cru que c'était une interférence, un cibiste. » Oui, c'est à ça que ça ressemblait, au début. Stein effleura le cadavre du regard. À un moment donné, avant de glisser au pied de ce lampadaire, la morte était encore bien vivante. De nombreux voisins pouvaient en témoigner. Ils l'avaient entendu hurler. « Oui, on la voyait tituber. J'ai cru qu'elle était ivre ou droguée. » Et voilà maintenant qu'elle avait titubé. Ils avaient vu, regardé, pendant qu'elle était encore en vie, cette forme inanimée sur laquelle ils jetaient à présent des regards furtifs à la dérobée. Là, ce qui est beau dans Dorothy Unac, dans ce livre Victime, c'est aussi son personnage féminin, son enquêtrice, Miranda Torres, qui là, alors, elle cumule, car non seulement elle est femme, mais en plus, elle est noire. Et c'est un portrait absolument magnifique d'une femme noire, très très forte. Et peu à peu, en fait, l'enquête, justement, fait apparaître la corruption généralisée de la ville et cette incapacité, finalement, de mener une véritable enquête, de découvrir la vérité. À New York, on ne découvrira jamais la vérité parce que tout le monde est corrompu. Sauf peut-être, qui pourrait le faire, sauf Miranda. Et je vous lis un autre extrait. Miranda rencontre le personnage horrible, finalement, celui qui tire toutes les ficelles, Galvez. Mais quand vous gagnez, mais quand vous êtes sûr de recevoir un lot, et si votre vie, si c'était votre vie qui était en jeu, vous accepteriez ? Donc, Galvez essaie de faire un marchandage avec Miranda. Répondez-moi, je veux savoir. Répondez exactement ce que vous dicte votre cœur, Miranda. C'est primordial, pour vous comme pour moi. Quelle importance. Il se livrait à cette comédie pour son seul plaisir. Elle l'avait vu jeter un coup d'œil à sa montre. Il cherchait seulement à passer le temps. Elle lui répondit sans même réfléchir, sans le moindre calcul. Ça n'avait aucune importance. Ma vie n'est pas quelque chose dont on peut me faire cadeau. Elle m'appartient. Toujours aux États-Unis, cette fois-ci on change de côte, on arrive à San Francisco avec la typique Marcia Muller qui est vraiment caractéristique de ces rom-pol San Francisco américains, donc californiens, où finalement l'atmosphère est un peu moins lourde. Hein. Les relations entre les gens sont un peu plus légères et ça pétille un peu plus. Alors là aussi, bien sûr, Marcia Muller se dit féministe. Son enquêtrice, c'est Sharon McCone, qui est mi-indienne et mi-irlandaise. Et elle enquête pour un collectif d'avocats progressistes qui vivent en commune, dans une maison. Donc il y a toute une atmosphère et on évoque quand même d'autres moyens de vie. Et l'enquête se mêle toujours à ses problèmes de cœur et de vie. Moralité, une femme forte, indépendante, intelligente et active, a des problèmes à rencontrer un mec qui accepte tout ça. Et d'ailleurs, elle le dit, ou plutôt c'est son coéquipier qui le dit, « Quand cette affaire sera réglée, j'aimerais bien vous revoir. Sur un plan non professionnel, je pourrais vous apprendre un tas de choses sur Rembrandt ou Cézanne. » Il hésita. Je renversai la tête en arrière pour le regarder. Il avait l'air sérieux. « Il y a des choses que vous pourriez m'apprendre, vous aussi, » dit-il. Les mots lui vinrent à la bouche comme un regret. J'avais envie de sourire, mais je me rendis compte que ce qu'il voulait dire avait du mal à sortir. « Quel genre de choses ? Des choses concernant un homme solide et une femme solide. Sur la manière dont deux êtres de ce genre peuvent être ensemble sans se diminuer l'un et l'autre et sans se déchirer. » Alors Marcia Muller, elle a aussi commis un très joli petit livre à deux mains avec Bill Prozzini, « Où sont les trésors d'antan ?» qui a été écrit à deux mains, qui se passe aussi sur deux époques, au 19e et maintenant, avec deux crimes, un trésor qu'on cherche et un assassinat. C'est assez rigolo. C'est également publié chez Gallimard, Série Noire.
Alors tu nous as réservé un dernier polar pour un peu conclure cette immense série des Reines du Crime. Un polar très spécial parce qu'il met en évidence peut-être l'histoire des femmes et le rôle des femmes en tout cas. C'est celui écrit par Amanda Cross qu'on a trouvé qu'en version anglaise, « The players come again », les joueurs reviennent. Je ne sais pas si on peut traduire ça comme ça. Et alors, pourquoi tu le trouves assez symbolique de finalement toutes les histoires de femmes dans son ensemble ? Que raconte-t-il ?
Alors, The Players Come Again de Amanda Cross, effectivement, est une enquête très spéciale. Alors, l'enquête est menée par Kate Fensler, qui est une professeure de lettres, de critique de la littérature. Et en fait, c'est plus une enquête littéraire qu'une enquête criminelle. Le crime, s'il y a eu lieu, c'est un crime aussi social, finalement. En fait, on demande à Kate Fensler d'écrire la biographie de la femme d'un célèbre écrivain qui est mort il y a une cinquantaine d'années. Ce célèbre écrivain qui édita dans les années 40 un chef-d'œuvre, Ariane, qui est vraiment un roman du début de la modernité. Ariane qui finalement réécrit le mythe d'Ariane, le mythe crétois, mais en donnant la parole à une femme. C'est la vision d'une femme, c'est ses fantasmes, sa sensibilité, sa sexualité aussi. Alors il y a un doute qui traîne dans le monde de l'édition et dans le monde littéraire, de la critique littéraire, que c'est peut-être la femme de l'écrivain qui aurait écrit ce livre. Parce que comment mettre un personnage féminin au centre d'un roman écrit par un homme, on se dit peut-être c'est sa femme qui l'a inspiré si ce n'est pas elle qui l'a écrit. Donc elle doit retrouver des traces de cette femme qui est morte, bien sûr. Et elle va rencontrer trois femmes, trois vieilles femmes, qui sont trois sorcières et qui vont lui donner les indices. Et elle les retrouve, alors c'est vraiment une enquête littéraire où elle trouve ses preuves dans Lucie Rigaret, dans Virginia Woolf, dans James Joyce. Et c'est un style, c'est écrit vraiment dans un style typiquement Jane Austen. Et... finalement, la conclusion de son livre, c'est peut-être que le vrai crime, le grand crime, le plus grand crime pour lequel on n'a pas encore vraiment le plus grand crime parfait dans la mesure où on n'a pas encore trouvé le criminel, c'est peut-être l'exclusion des femmes du monde social et leur silence.
Crime jamais puni.
Crime resté encore impuni. Thank you.
Alors Viviane, peut-être pour conclure, tu nous as dit au tout début qu'est-ce qui t'avait encouragé à lire tous ces bouquins. C'est d'abord que toi-même, tu voulais être la future reine du crime en écrivant ton futur polar. Alors dès que tu l'as fini, j'aimerais bien être celle qui fait la première interview. Mais disons, il y a quand même une constante dans tous ces bouquins qui t'a particulièrement plu. Bon, mais il y a évidemment l'histoire de la place donnée aux femmes, les rôles importants donnés aux femmes. Mais je crois qu'il n'y a pas que ça finalement qui t'intéresse particulièrement dans ces bouquins, non ? Et qui font que c'est une particularité des romans de femmes, polars écrits par les femmes.
Alors effectivement, il y a justement cette prédominance des personnages par rapport aux événements. Donc il y a il y a toute une atmosphère et la manière dont ils sont décrits les rend crédibles, et ce qui fait qu'on s'y attache. Ils sont attachants. Il y a un rapport qui se crée entre le lecteur et les personnages, qui est un rapport. Alors en plus, ce sont des personnages qui sont parfois, bon, ils sont caricaturaux, surtout dans les anciens, mais de plus en plus, ils s'humanisent. Et face à la mort, parce que finalement, le roman Paul traite de ça, et face à la mort, ils ont un rapport humain. Ils ont un rapport qui n'est pas un rapport de fonctionnalité, où on se sert uniquement du crime pour faire frissonner. Il y a un rapport d'humanité. Les relations entre les gens sont assez jolies, elles sont tendres, il y a de la tendresse, il n'y a pas que de l'utilisation ou de la... c'est pas que manipulatoire, il y a aussi des histoires d'amitié, d'amour, de tendresse, de rencontres qui sont plus riches que dans les romans classiques. Alors bien sûr que dans les romans écrits par des hommes modernes, il y a aussi cette tendance. Il ne faut pas croire que c'est uniquement exploité par les femmes. C'est clair que si on prend certains écrivains masculins, entre autres Wetterings, par exemple, qui est un écrivain hollandais, il y a justement toute la sauce autour, finalement, qui donne du corps au personnage. Et les relations. En plus, il y a justement cette économie face à la mort. On ne tue pas trop. Moi, j'aime bien. J'aime pas quand c'est trop sanguinolent. C'est pas trop violent. Il y a un rapport aussi à la violence qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on ne joue pas avec la violence. On ne la fait pas titiller. On n'utilise pas la violence pour faire frissonner ou pour donner un peu d'excitation malsaine. Si la violence est décrite, par exemple, dans les romans de Hunac, c'est vraiment dans un rapport de dénonciation très fort. Et voilà, je dirais ça, moi, des Rumpel.
Et l'envie de témoigner quand même d'un certain environnement social, que ce soit celui des rapports hommes-femmes ou entre femmes pour les plus récentes, les féministes, ou l'image d'une époque, d'une ville ou de rapports de classe sociale.
Oui. Oui, mais ça, c'est, disons, c'est, je sais pas. Je...
Ça, c'est pas très propre aux femmes, tu penses ?
Je sais pas. Moi, disons, c'est ça que j'aime chez elles. Alors, je pense pas que c'est particulier aux femmes, si ce n'est peut-être justement de mettre l'accent quand même sur ces personnages féminins. Alors, bon, c'est pour ça d'ailleurs que j'aimerais conclure par un roman masculin, c'est bizarre, hein, écrit par Joseph Hansen. Alors, Joseph Hansen, c'est un enquêteur PD, voilà. Après les enquêtrices féministes, éventuellement lesbiennes, on arrive aux enquêteurs PD, alors avec les livres de Joseph Hansen, qui sont absolument extraordinaires, très très bien écrits, c'est un délice. Ils sont publiés au Rivage Noir, et ce sont des enquêtes, alors, qui justement ont tous ces ingrédients, c'est-à-dire des personnages vrais, des relations vraies, en même temps que se fait l'enquête, se construit la relation de l'enquêteur avec son amant, et c'est très très bien décrit. Peut-être le seul critique qu'on pourrait faire, c'est que ça se passe un peu trop dans une société un peu riche, avec beaucoup de champagne et beaucoup d'alcool. Alors, aussi une des constantes de tous ces romans. Alors vraiment, vivement la cirrhose du foie. Hein.
Alors nous vous rappelons que si vous avez aimé toute la liste des nombreux romans policiers écrits par des femmes dont Viviane vous a parlé, eh bien il suffit de nous écrire à Onde Femmes, Radio Zone, 7 boulevard Karl Vogt, 1205 Genève. Je répète, Onde Femmes, Radio Zone, 7 boulevard Karl Vogt, 1205 Genève. Et nous vous ferons un plaisir de vous envoyer cette longue liste. Viviane a encore une petite chose à vous confier là, en toute dernière instance.
En toute dernière instance, une nouveauté qui vient de sortir, je ne l'ai pas encore lue. J'ai les parapluies jaunes d'Elsa Lewin, traduit donc publié au Seuil policier, où on nous dit que c'est le premier roman d'Elsa Lewin, qui est une psychanalyste new-yorkaise qui va au-delà de la relation d'un fait de droit commun. Sur un fond de déliquescence d'une cité ravagée par la drogue et la misère morale, ce livre décrit avec sensibilité les êtres enfermés sur eux-mêmes, perdus, crevant de ne pas savoir vivre et aimer.
Et les musiques de ce soir, c'était tout d'abord Esther Lamandier, La Ultima Cita. Ensuite, on a entendu Barbara, Si la photo est bonne, Mina. Et ensuite, des musiques de films, Art Blakey et Miles Davis, Des femmes qui disparaissent, Claude Bolling, On ne meurt que deux fois, John Carpentier, Prince of Darkness, Les longs manteaux de Jean-François Léa. Là, je parle que de ceux qui ont fait la musique, une fois n'est pas coutume, mais pourquoi pas. Ensuite, une des musiques de George Harrison, Lethal Weapon. Et ensuite, alors, tous les bruits bizarres que vous avez entendus, on s'est un peu défoulé, on a profité de taper, de tuer, de tordre le cou à des petites bêtes et des gens qui passaient par là, c'est tout.
Alors, j'espère que ça vous aura plu. Viviane, merci mille fois d'avoir lu ces innombrables romans policiers. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine dans Remue Ménage, dans tout autre chapitre, puisque nous nous retrouvons avec La Vache d'Utopie. La Vache d'Utopie, c'est une exposition au musée d'Ethno à l'annexe de Conches à Genève, et nous rencontrerons Yvonne Spreisberg, anthropologue, Christine Détra, la conservatrice de l'annexe, et une surprise, Claire-Annette Mussard, qui, elle, fait des photos de vaches et parfois se place parmi elles. À la semaine prochaine. I must learn the mysteries that hide in the